voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, c'est, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg, mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète quoi.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Huitième épisode. Un mât pour les assembler tous.
Mardi 11 décembre, au lendemain du débarquement, tout le monde prend ses marques. Les scientifiques, qui chacun dans leur laboratoire vérifient que le matériel est arrivé à bon port, mais aussi les techniques qui découvrent ce que va être leur atelier pour la prochaine année. Et dans un cas comme dans l'autre, il faut non seulement composer avec les moyens du bord, avec ce qu'il y a, et surtout avec ce qui manque. Dumont d'Urville, c'est le royaume de la débrouille. Scientifique, technique, médic, tout le monde est dans le même panier. Il va falloir apprendre à travailler et à vivre ensemble. Christophe Dos Santos a quelques semaines pour mettre sur pied son expérience d'analyse des particules d'eau atmosphérique qui doit lui permettre d'évaluer l'évolution du climat en Antarctique.
Le vrai enjeu du déballage de caisse, c'est est-ce que j'ai pensé à tout ? Parce qu'on sait que le voyage, l'usure, en bref, il faut identifier comme il se doit les zones sensibles. Donc c'est un peu la petite angoisse de est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que tout va bien se passer puisqu'il n'y a pas le magasin à côté pour commander en deux jours avoir à la maison quoi.
Là il y a deux ordinateurs, c'est quoi cette grosse caisse, cet instrument qui a l'air d'être assez technologiquement avancé et poussé?
En fait celui qui est le plus technologiquement avancé et poussé, c'est celui qui est bien beau, qui brille, c'est donc des spectromètres laser. Un spectromètre, ça permet d'analyser le spectre, en l'occurrence d'un gaz, et donc d'en déduire sa composition. Nous, on s'intéresse à la composition isotopique de la vapeur d'eau. Voilà, et ça, c'est un petit bijou technologique. Ça remplace en bonne partie, en tout cas pour le terrain, c'est inestimable comme valeur ajoutée, le spectromètre de masse, qui est normalement un instrument qui vaut 300-400 000 euros, qui prend la taille de 3-4 caddies de supermarché, qui pèse une tonne, bref. Intransportable. Alors que là, vous voyez, ça fait la taille d'une tour d'ordinateur, peut-être deux, et ça fait un travail équivalent. Donc, j'ai déballé toutes mes caisses, j'ai vérifié que j'avais tout. Il me semble que j'ai tout, mais je ne serai pas sûr de ça tant que la manip ne sera pas complètement installée. Je vais vérifier du coup que tout marche en l'allumant. L'instrument qu'on a fabriqué, le générateur d'humidité, il faut vérifier qu'il a pas souffert pendant le voyage, parce que je sais que celui de Domsé, où est ma Amal Landais, ma directrice de thèse, a souffert pendant le voyage, donc elle a eu quelques problèmes à l'allumage. Et à partir de là, je pense que j'attends aussi le mât, en fait, qui est en construction par l'équipe technique, par Quentin, là, pour le coup. Donc, de toute façon, je ne vais pas chômer d'ici demain. Demain ou après-demain, il va me livrer le mât, et là, on va ensemble installer le piquage qu'on appelle d'air, aller chercher l'air donc à 1 mètre au-dessus du toit, et le ramener via un câble à l'intérieur du shelter du laboratoire à glaciaux.
Et on est où exactement là? Qu'est-ce qui fait tout ce bruit là?
Ah oui, bah oui, bah alors là vous êtes typiquement dans le bâtiment de glaciologie, climatologie, quoi, dans son ensemble. Et là ce que vous entendez tous ces bruits, c'est les pompes, les fameuses pompes, puisqu'ici on est des pompeurs d'air. Qu'est-ce qu'on fait? On pompe l'air pour analyser cette terre de l'Antarctique. Voilà.
Ouais.
La nana qui l'a posé 40 jours il y a 2 ans, elle avait pas mis ça, elle avait juste mis ça.
C'était en été. Ouais. Mais il faut vraiment bien fixer ça parce que sinon il va rester un mois d'hiver. Parce que ça, il y aura vraiment énormément quand il y a des vents à 200 km/h.
T'as raison. D'ailleurs, faudra mieux qu'il y ait le cordon chauffant dessus aussi parce que.
Jusqu'ici là ?
Ouais.
Que le bout du cordon chauffant.
Bah, parce qu'en plus c'est du métal donc ça va bien diffuser. Ouais. Mais le truc c'est que si jamais ça c'est un point froid. C'est encore pire, tu sais.
Ouais.
Ça fait des. Enfin, en général, du coup, ça fait des endroits où t'as des condensations et tout ce que je veux éviter, en fait.
Ok, d'accord. Ce qui est pas mal aussi avec ça, c'est qu'ici, il y a beaucoup de. On a vu là cet hiver des filtres glaciaux, notamment au Toblerone, où il y a pas mal de plumes de manchots et de duvets de manchots, quand ils muent, qui volent dans l'air et qui viennent boucher des trucs.
Ah, bah tu m'as convaincu. Donc, ok, je mets ça. Ok.
Ça marche. Nickel. Alors, Quentin Perret, technicien polyvalent, chaudronnier. Donc là, je suis en train de réaliser un mât pour une prise d'échantillons scientifiques.
Comment ça s'est passé le briefing avec Christophe de Santos ? Il vous a fait des plans ? Vous avez bossé comment ensemble ?
Il m'a dit ce qu'il voulait. Après, les solutions techniques, on les a trouvées ensemble. Mais donc là, ça fait bientôt un an que je suis là et on prend l'habitude de trouver des solutions en fonction de ce qu'on a parce qu'au niveau de la matière première, on n'a pas énormément de choses. Du coup, on fait deux fois, trois fois, quatre fois le tour de la base avant de commencer pour pouvoir trouver le matériel qu'il nous faut, qui est nécessaire pour réaliser ce qu'on veut faire.
C'est-à-dire que c'est beaucoup de récupération ?
Ça, c'est un morceau de tube déjà qui a été récupéré, donc que j'ai trouvé dans des chutes. Et du coup, les vis aussi, on voit que c'est des vis qui ont déjà été utilisées, qu'on restock, on fait vraiment attention à acheter le moins possible.
Ok, très bien. Vous pensez que vous en avez pour combien de temps à peu près pour monter le mât ?
Pour monter le mât, je dirais peut-être 3 jours de travail consécutifs. Mais ici, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en fonction déjà de la météo, on ne peut pas travailler tous les jours. Comme aujourd'hui, avec la météo qu'il y a dehors, on fait du travail d'intérieur. Et puis il y a aussi beaucoup de manips en dehors de notre travail pour rentrer toutes les vivres de frais dans les frigos. Donc le travail passe dans un second temps.
Moi je m'appelle Gérard Guérin.
Oui, ça fait combien d'années du coup que vous venez tous les étés ?
Presque 15 ans maintenant, enfin pas tout à fait, mais les régions polaires c'est simple, hein. Soit les gens ils aiment pas et ils reviennent jamais, soit ils aiment bien et ils cherchent toutes les combines pour revenir. Donc moi je suis tombé dans la marmite là et franchement ça c'est un truc, puis l'ambiance de travail, tout ça, ouais, c'est quand même fabuleux. Ouais. Enfin mon métier d'origine c'est chaudronnier, mais en campagne d'été c'est polyvalent, c'est un petit peu tout quoi. Ça peut être réparer une porte, ça peut être un petit peu n'importe quoi. Des fois, il faut trouver des combines, effectivement. Ça, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, moi, je cherchais à aller dans les régions polaires. Hein. Avant, j'ai été aussi beaucoup en Arctique. Hein. Et j'ai calé ma vie par rapport à ça. Hein.
C'est un peu une âme d'explorateur, en fait.
Pour explorateur, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, parce que bon, moi, j'explore pas grand-chose, mais... Par contre, ici, je trouve ça génial, c'est justement de contribuer aux recherches des autres scientifiques. Ça, c'est fabuleux. Parce que finalement, dans le monde qu'on vit, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de faire évoluer la science, hein, la connaissance. Hein. Alors, bon, moi, je suis incapable d'être un chercheur ou un scientifique, hein, mais en tant que technicien, pouvoir contribuer à ça, c'est quand même quelque chose... très gratifiant quoi.
À DDU, les scientifiques sont peut-être les stars, mais ce sont les techniques qui font tourner les bases et qui sont surtout les plus nombreux. Charles Volta vient prendre la relève de Quentin Sell au poste de mécanicien.
Le poste de travail qui est commun donc au garagiste et au menuisier, pas mal équipé, donc tous les carnets d'entretien, les documents techniques. la banquette pour le repos du menuisier.
Est-ce que le menuisier fait plus la sieste que le mécanicien?
Pour l'instant, oui. Puis on a plus vu siester que travailler. Donc ouais, on a une partie magasin avec pas mal de pièces différentes. Parce qu'on a beaucoup de matériel différent. On a du tracteur, du déchargeur, des Kubota, des 4x4. Donc c'est du matériel assez différent. Donc beaucoup de matériel, beaucoup de pièces différentes à avoir.
On est face à quoi là en fait? Décrivez-moi ce que...
Alors on est face à un quad, la chenille.
Il y a un capot qui s'envolait l'année passée. Et en fait avant il avait une bulle et un capot à l'avant. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la bulle s'est envolée et le capot aussi. Et en plein milieu d'hiver, à peu près au niveau de la mid, j'ai un de mes co-hivernants qui m'a ramené un bout de plastique. Et qui m'a ramené, il me dit « Ah, attends, j'ai retrouvé un capot du Kubota, c'est un autre véhicule. » Et je te l'ai posé au garage, je tombe sur ce morceau de plastique noir, et je dis « Mais c'est pas un Kubota !» Et là, je dis « Ah, c'est un morceau du quad !» Le morceau de quad qui avait disparu depuis 6 mois, qui était dans une congère sur la banquise. Voilà, donc je l'ai remonté, et puis voilà.
Mécano sur une base polaire comme ça, c'est essentiellement de la bricole, de la réparation, de la démerde. Comment ça se passe?
Bah ça, je l'ai pas encore dit. Je vais pas lui faire peur, mais c'est.
Il se bouche les oreilles.
On est très bien équipé. On a beaucoup de corps de métier, donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on peut faire beaucoup de choses ici. Mais c'est surtout avec. Faudra peut-être mettre un bip. Hein, avec la bite et le couteau, quoi, c'est énormément de démerde. Ouais.
Ça veut dire que vous avez gagné des points d'expérience en un an, là? Vous êtes meilleur mécano en sortant de DDU qu'avant?
J'ai gagné des points d'expérience, mais j'ai un peu perdu des points de vie par contre. Mais... non, on a beaucoup. Enfin, une expérience différente de ce qu'on pourrait avoir en France. C'est pas du tout la même façon d'aborder la chose. Voilà. Bah voilà.
Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Il y a de l'essence qui est sortie, pas par le bon trou.
Donc c'est mauvais signe.
C'est très mauvais signe. Bon, on va essayer de voir si on arrive à la démarrer, mais je pense que c'est mort. Non, bon, c'est ce qu'il y a là. On sait qu'il y a de l'essence qui passe pas au bon endroit. Ben voilà.
Ça doit être la batterie alors. Revenez dans 6 mois.
Je fais un trou dans la neige. En fait, donc pour installer le mât. Évidemment, ici, on est très très sujet au vent, le vent catabatique. Donc il faut que le mât, on soit certain qu'il tienne. Surtout qu'on a, on a 1 an, voire 2 ans minimum de planification pour cette expérience. On installe des haubans. Tout ça a toujours été pensé par Quentin, comme tout le reste. Et bah, simplement, là, l'endroit idéal pour ce tauban, il est sous la neige. Donc il y a 1 mètre de neige à creuser. Mais voilà, c'est comme tout. Hein. C'est comme tout ici. Souvent, il faut s'y coller soi-même. Enfin, en tout cas, y participer, quoi. D'ailleurs, monsieur, vous êtes sur la zone à détruire. Alors, on remarquerait que la pelle est un peu le deuxième tournevis sur la base, quoi. Là ça va, on a de la chance, ce qui fait beau. En fait, dans d'autres circonstances, ça aurait pu prendre le double ou le triple de temps. Il fait beau et pas trop froid.
Moi, je suis ravi, j'apprends des tas de choses.
Et en plus, dans un cadre extraordinaire et avec un temps merveilleux, parce qu'il faut le dire, depuis 2 jours, là, on a...
On a l'impression d'être sous le soleil de... Ça, c'est extraordinaire. Bon.
Alors, expliquez-moi, Thérèse, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans toutes les manipulations, dans toutes les expériences que vous avez... Parce que vous êtes renseigné, vous êtes allé vraiment dans tous les bâtiments tout au long de la semaine pour comprendre qui fait quoi?
Non, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir une vraie perception de cette vie dans une base comme celle du Mont-d'Urville. Parce que là, c'est vraiment un groupe de jeunes, c'est en même temps super, bon, de découvrir les goûts, les habitudes, les trucs comme ça. Mais ils sont quand même un peu à part, peut-être.
Pourquoi?
Là, je pense qu'on les a vraiment choisis. Parce que vivre en groupe comme ça pendant 1 an, ça va peut-être pas être si facile que ce qu'on croit. Ouais. Parce que là, tu vois, tu fais le tour, tu es tranquille, tu dis, je vais passer une semaine, je me promène, je vois ci, je vois là, je vois le reste. Je discute avec les uns et les autres. Mais quand ça va être répétitif et que ça va, la fatigue va s'accumuler, peut-être il peut y avoir des tensions, quoi, je ne sais pas. C'est sûr que ça doit être une expérience super intéressante du point de vue humain.
Il va faire nuit tout le temps ?
Ah, ça, le jour continue, c'est une effervescence de travail. En Islande, du moins, c'est ça. Les gens font 2, 3, 4 activités par jour. Ils n'arrêtent pas. Et par contre, quand c'est la nuit, ils ont une perte d'activité et ils n'attendent que un peu plus de jours pour faire vraiment une grosse fête, quoi, d'après ce que j'ai compris.
Jacques Deveau, médecin de base, TA68.
Tout à fait.
Il y a aussi une partie de suivi psychologique, notamment pour l'hivernage, dont on sait qu'il y a des syndromes polaires qui peuvent être un peu liés à de la dépression, à du laisser-aller. Ça fait partie de votre mission de médecin de base ?
Ah bah oui, nous, de toute façon, on est, c'est un petit peu particulier. On est le médecin fait tout. À la fois électricien, aide-soignant, agent de service, biomédical, pharmacien. Et on est aussi psychiatre, s'il y avait, besoin, on est psychologue. Et effectivement, durant l'hivernage, il y a, qui a été exploré par notre ancêtre dans l'établissement qui porte son nom, qui est le docteur Rivolier, qui a beaucoup travaillé sur la psychologie des hivernants. Et effectivement, qui a décrit le syndrome d'hivernage, qui est lié à d'une part à la diminution de la luminosité, à l'ennui, au peu d'événements qui se déroulent pendant l'hiver profond, et qui effectivement est un petit peu un syndrome dépressif, qui peut être du repliement sur soi-même, des conduites un petit peu anormales, on va dire, quoi. Donc ça, notre rôle, effectivement, même si nous on le subit, on peut le subir comme les autres, bah, on doit le dépister, et on doit en reparler avec les hivernants, au moment où on sait que ça survient. Et c'est important que chacun se surveille les uns les autres et se soutienne les uns les autres. C'est pas toujours le médecin qui va résoudre le problème, le coup de mou de l'un ou de l'autre. Ça peut aussi être entre eux qui le résolvent. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est un truc qui est intéressant. C'est que parmi les tout premiers hivernants, dans une équipe australienne, ils ont créé ce qu'on appelle la midwinter. À cause de ça, c'était une journée qui était donc le 21 juin. Et donc, bah, ce jour-là, il avait été décidé de faire la fête et de faire autre chose. Et c'est une tradition qui persiste sur toutes les bases antarctiques et subantarctiques. Et on fait la fête. C'est un petit peu carnaval, quoi.
J'ai une question, par exemple, justement, sur ce syndrome de l'hivernage. Les premiers symptômes, comment c'est à vous de surveiller ? Il y a une vigilance accrue à partir du moment où on rentre dans l'hiver par rapport aux autres hivernants ? Vous êtes un peu plus attentif, justement, à l'apparition de certains syndromes ?
Bah, c'est un petit peu le rôle de l'équipe du district, de l'équipe à la tête du district, c'est de surveiller, justement, les premiers éléments, alors qu'ils peuvent être des frictions entre des hivernants, qui peuvent être au contraire un pliement, quelqu'un qu'on voit plus, qui ne fait plus ses activités, ou alors fait juste son activité, redisparaît dans sa chambre. Ça peut être des conduites plus addictives, par exemple. Ça peut avoir plusieurs formes, il n'y a pas de... Mais c'est effectivement, on sait qu'à partir du... Bon, disons que jusqu'à la mid, ça se passe bien, et c'est après la mid, le coup de mou, il est juillet-août, quoi. En gros, il est juillet-août.
La mid-winter.
La mid-winter, voilà. Et après, ben, y a la fatigue, quoi. Le septembre-octobre, ça commence à tirer.
En campagne d'été, les ateliers ne sont pas hyper grands. Du coup, en campagne d'été, on se marche un petit peu dessus ici, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de passages.
Vous avez été plus tranquille cet hiver ?
Ah oui, bah cet hiver, donc on était un par atelier. Donc moi, j'avais voilà, tout le premier, la première partie, là.
Qu'est-ce qui vous a attiré en Antarctique ?
L'envie d'une nouvelle expérience. Voilà, donc avant de venir ici, j'étais en CDI. J'étais bien, j'aimais bien mon métier, mais j'étais jamais parti un petit peu loin de chez moi et j'avais vraiment besoin d'une expérience comme ça. C'est pas un rêve que j'ai depuis toujours, mais c'est un rêve qui est né il y a pas très longtemps. Voilà.
Et donc vous avez planté votre CDI pour venir à l'autre bout du monde ?
Exactement, voilà, pour venir ici et je regrette absolument pas.
Qu'est-ce que vous diriez, puisque vous êtes en tout début de carrière, vous avez quel âge, Quentin ?
J'ai 25 ans.
Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris pendant ces expériences d'hivernage en Antarctique au niveau personnel ?
Sur le plan personnel, c'est beaucoup de... C'est un petit peu du questionnement. C'est compliqué tout de suite en fin d'hivernage de dire ça. Enfin, moi, je me pose la question, est-ce que j'ai changé ? Et je suis pas encore vraiment capable de dire est-ce que j'ai changé ou pas. Je pense que c'est vraiment... Quand je reprendrai mon train de vie que j'avais avant, avec mes amis en France, ma famille, que je pourrais voir vraiment si j'ai changé. Je pense avoir changé, je pense avoir appris sur moi, notamment sur, voilà, donc quand on vit en collectivité comme ça, il faut beaucoup prendre sur soi de temps en temps. Voilà, s'il y a quelque chose qui nous énerve, il faut savoir ne pas déborder de colère, tout ça. Je pense que j'ai pas mal appris de ce côté-là. Ouais.
On va installer aujourd'hui le mât. Le mât qui est où ? Qui est là, qui est derrière. Le grand mât. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'aller mesurer la composition de l'atmosphère. Voilà, en résumé, le...
Ton projet.
Le projet, ouais. Et du coup, je vais aller remplacer Quentin, là. C'est un peu le deal. Il m'aide à le faire aujourd'hui, très vite. Et du coup, je l'aide à garder ses articulations en place pour encore quelques années.
Vous faites ça juste parce qu'il y a un micro pour vous donner bonne conscience, mais tout le monde sait que vous êtes un scientifique et que vous exploitez les techniciens comme tous les autres. Personne n'est dupe.
Non, justement, justement, je suis allé voir Quentin tout à l'heure. J'ai aidé à aller chercher son matériel dans son atelier. Et j'ai bien tenu à lui préciser que j'étais là pour l'aider, quoi.
Et parce que là, il faut creuser... là, il faut faire... Attends, il est où le morceau ? Ah ouais.
Là, Quentin, il a pas du tout prévu large. Il a prévu, ça fait quoi, 40 cm à mettre dans un rocher. On a donc une mèche, elle fait combien la mèche de diamètre ?
50 mm.
50 mm de diamètre, voilà. C'est the biggest mesh ever.
Et puis en plus, là, vous êtes pile au milieu de petits lacs gelés, de fientes de manchots qui commence à dégeler grâce à la température, donc on est vraiment dans un environnement professionnel confortable.
Exactement, voilà. Faut que tu fasses gaffe, parce que si, en gros, si tu fais toucher des filets contre ça, ça peut tourner, puis tu peux
Et tu peux te faire très mal, ça m'est déjà arrivé, ouais.
Et du coup, quand il faut pas mettre la mèche au fond et commencer, il faut commencer et après tu viens mettre ta mèche au fond, et quand t'arrêtes, et bah tu te retires avant de lâcher la gâchette. En gros, tu fais comme ça, tu commences.
D'accord, ok. Voilà.
Mais sinon, c'est tout con.
J'ai vu dans le séjour, il y a une petite note avec un numéro d'appel hebdomadaire pour les hivernants. Un numéro d'écoute, c'est aussi pour vous soulager, c'est aussi parce que précisément quand il y a des liens amicaux de proximité qui se forment, ça peut devenir plus difficile de parler à quelqu'un qu'on côtoie tous les jours et qu'on connaît bien.
Bien sûr, c'est un numéro d'appel pour les psychologues, je pense que ça dont vous parlez.
Claire Valentin, médecin de base.
Il y a une astreinte de psychologue qui, tous les vendredis après-midi, il me semble, en métropole. Alors avec le décalage, il faut réussir à gérer. Mais ça permet aux hivernants qui le souhaitent d'avoir un soutien psychologique à distance qui soit hors de la base. Nous, on est leur médecin, ils peuvent venir nous parler. Mais bon, bah, il y a des affinités plus ou moins fortes. Et surtout, on fait partie de l'hivernage. Et parfois, surtout en psychologie, on a vraiment besoin de parler à quelqu'un d'extérieur à la famille. Hein. Ça peut être en métropole, d'extérieur aux amis, quelqu'un qui a le recul pour voir ça d'un extérieur. Donc c'est important d'avoir cette possibilité-là. Et pour le médecin, c'est une possibilité aussi de se confier soit pour nous, parce qu'on a une responsabilité importante sur la base, soit pour savoir gérer une situation sur base qui serait compliquée dans les relations avec les gens, des problèmes humains qui peuvent être compliqués. D'avoir un avis extérieur, c'est important.
Est-ce que t'as
des pinces coupantes ? Ouais, j'ai une pince qui coupe.
En fait, le truc, c'est que les tubes ne sont pas assez longs pour aller vraiment en suivant tout le mât, puis tout le bâtiment en L, bien collé au mur. Ils ne sont pas assez longs. Donc, ça va légèrement, on va faire une courbure, quoi. Ça va arriver après sur le...
Vous voulez dire que ça n'a pas été très, très bien prévu en amont?
C'est que moi, effectivement, de mon côté, en France, j'ai pas amené suffisamment de cordon chauffant, qui est mon facteur limitant, là. Et en même temps, je m'attendais pas à ce qu'on me fasse un si beau mât à DDU, mais j'ai eu la chance de tomber sur un être formidable qui s'appelle Quentin Perret. Il s'est fait applaudir ce matin à la réunion technique, apparemment.
Ils ont applaudi, c'est bouffé.
Putain, mec, t'as réussi à faire un mât et tout, t'as le chantier glacial, tu l'as fait tout seul.
C'est Abigail qui a dit, alors je voudrais remercier. Hey mec, je suis payé, je fais mon travail. Dédommager 1024 euros par mois pour faire.
On érige le mât. Ériger un mât de cette taille en Antarctique, je peux mourir tranquille, comme dirait Thierry Roland. Je tiens toujours à remercier les grands philosophes qui m'ont amené jusqu'ici. On met la protection, voilà, avec réservoir incorporé. Sortez couvert. Alors là, nous avons un bol Ikea qui servira à avoir un prix Nobel, messieurs. On remerciera les Suédois plus tard.
Ça restera dans les annales.
Allez, vive. Non, mais c'est vraiment chouette parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand même en une semaine, j'aurais réussi à déballer la manip et à l'installer en entier en 6 jours. Pour de la logistique polaire, ça marche plutôt bien. C'est un premier succès, disons.
C'est parti.
Ah, c'est parti. Le moment tant attendu. Vas-y, mon gars. Tu y arrives ? Ouah, ça a l'air lourd quand même. C'est un succès, Quentin. Ah, c'est top. Ben voilà.
Là. C'est bon. Il n'y a plus qu'à tendre. Tendre les haubans.
Je te laisse serrer tes haubans pour ça, ça donne moi.
Non, ça va le faire.
Dans le prochain épisode, on oublie les manchots et on cherche sous la neige les nids de tous les autres occupants ailés des îles qui composent du Mont d'Urville. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Christophe Dos Santos, Quentin Perret, Gérard Guérin, Charles Volta, Quentin Selle et Claire Valentin. À suivre.